Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idriss Assidoudia, bonjour. Au Sénégal, plusieurs formations et mouvements de l'opposition ont lancé ce jeudi à Dakar une coalition menée par le principal opposant Ousmane Sonko à quelques 5 mois des élections locales. La coalition appelée Yewi Askanui, Libérer le peuple en Wolof, vise, selon ses initiateurs, à conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en fait partie, mais pas le PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade. Au Nigeria, les forces de sécurité ont annoncé hier la libération de 5 lycéennes qui faisaient partie des 73 élèves enlevés la veille dans un lycée de l'État de Zamfara. Ce kidnapping perpétré par des hommes lourdement armés qualifiés de bandits est le dernier en date d'une longue série visant les établissements scolaires. La police n'a pas précisé si une rançon avait été payée pour leur libération. Les forces de sécurité ougandaises ont arrêté ce jeudi Lawrence Muganga, vice-chancelier de l'université privée Victoria, l'un des universitaires les plus réputés du pays. Selon la porte-parole de l'armée, il a été arrêté pour espionnage et, je cite, séjour illégal dans le pays. Monsieur Muganga, qui est né en Ouganda, est d'origine ethnique rwandaise, Banyarwanda. Il a été le porte-parole d'une partie de cette communauté vivant comme lui en Ouganda. Il dit ses membres marginalisés par le gouvernement qui refuse, selon lui, de leur délivrer des cartes d'identité car ils sont perçus comme des étrangers. L'homme qui a tué 4 personnes avant d'être abattu le 25 août devant le quartier des ambassades de la capitale économique de la Tanzanie, Dar es Salaam, était un terroriste islamiste radicalisé sur les réseaux sociaux, a annoncé jeudi la police tanzanienne. Des affrontements ont opposé jeudi pour la 2e journée consécutive des manifestants aux forces de l'ordre à Kerata, le berceau du mouvement anti-régime Irak dans l'est de l'Algérie, a rapporté la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ces heurts se sont produits à la suite de l'interdiction par les autorités d'une marche de soutien aux détenus d'opinion. Des commerçants ghanéens dénonçant l'effondrement économique de leurs entreprises ont manifesté hier à Elubu, à la frontière du Ghana avec la Côte d'Ivoire, pour réclamer l'ouverture des frontières terrestres fermées par le président Nana Akufo-Addo pour freiner la propagation du Covid-19. Les commerçants avaient également manifesté cette semaine dans les rues de la ville d'Aflao, à la frontière avec le Togo. L'Union européenne a accepté de renvoyer des millions de doses de vaccins contre le Covid-19 fabriquées en Afrique du Sud, qui cessera d'exporter hors du continent, a annoncé jeudi un envoyé spécial de l'Union africaine. 8 pays sur 10 en Afrique risquent de manquer l'objectif fixé au niveau mondial de vacciner 10% de la population la plus vulnérable au Covid-19 d'ici fin septembre, selon le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a annoncé qu'il ne briguera pas un autre mandat après seulement 1 an au pouvoir. L'un des membres de la bande de ravisseurs du groupe État islamique baptisé les Beatles a plaidé coupable hier de complicité dans les enlèvements et les meurtres d'otages occidentaux, dont 4 Américains devant un tribunal fédéral aux États-Unis. Ces djihadistes sont notamment accusés d'être impliqués dans les meurtres des journalistes américains James Foley et Stephen Sotloff, tués en 2014, et celui des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Muller. Après le triomphe de juillet, difficile retour sur Terre pour Virgin Galactic, 2 mois après avoir conduit jusqu'à l'espace son flamboyant fondateur Richard Branson, l'emblématique vaisseau de l'entreprise se retrouve cloué au sol face à la révélation d'un grave incident durant le vol.
La suite de nos informations. Au Kenya, 6 policiers ont été inculpés de meurtre hier jeudi pour la mort de 2 frères. Interpellés dans le centre du pays pour avoir enfreint le couvre-feu en vigueur contre le Covid-19, ils sont décédés après leur arrestation le 1er août. Eric Manira Kidza fait le point.
La mort d'Emmanuel Mutura Ndwiga et Benson Njiru Ndwiga, respectivement âgés de 19 et 22 ans, avait provoqué l'indignation dans le pays et donné lieu à des manifestations parfois violentes dénonçant les brutalités policières. Une autopsie a révélé qu'ils avaient subi des blessures à la tête et aux côtes, selon des médias. La défense des policiers a demandé une exhumation des corps pour une nouvelle autopsie qui a été refusée par le tribunal. Les frères Ndwiga ont été vus vivants pour la dernière fois le premier dimanche d'août. Leurs corps ont été retrouvés 2 jours plus tard par des membres de leur famille à la morgue locale. Les groupes de défense des droits humains ont dénoncé ce qu'ils décrivent comme une pandémie jumelle de violences policières au Kenya. Au total, 25 décès suspects ont été recensés, selon un communiqué de ces organisations. Le couvre-feu national contre le Covid-19 a été instauré en mars 2020 et régulièrement reconduit depuis.
Le président Joe Biden a fustigé hier le refus de la Cour suprême des États-Unis de bloquer une loi restrictive du Texas sur l'avortement. Il s'agit pour lui d'une attaque sans précédent.
Pour le président Joe Biden, la décision de la Cour suprême, prouve son prédécesseur républicain Donald Trump, provoque un chaos inconstitutionnel et insulte l'état de droit. L'impact sera immédiat et requiert une réponse immédiate, ajoute le locataire de la Maison Blanche. Le président démocrate a ordonné à son gouvernement de trouver des mesures pour assurer que les femmes du Texas aient accès à des avortements en toute sécurité et légalité et pour protéger les cliniques et médecins de potentielles poursuites. La loi du Texas interdit la majorité des interruptions de grossesse, même en cas d'inceste. Le républicain Dan Patrick, c'est une victoire pro-vie. L'association Texas Right to Life est d'avis que la loi est la plus forte à entrer en vigueur depuis l'arrêt Roe v. Wade. Elle espère désormais reproduire ce succès dans tout le pays. A l'inverse, les organisations qui gèrent des cliniques d'avortement affichent un profond désarroi. Nous sommes dévastés, nos patientes sont effrayées, confuses et cherchent désespérément à comprendre où elles pourront avorter, explique Amy Hackstrom Miller, la directrice de Whole Woman's Health.
Les Afghans attendent la formation d'un nouveau gouvernement qui pourrait intervenir ce vendredi même. L'équipe ne devrait pas inclure de femmes, une perspective contre laquelle des dizaines d'Afghans ont protesté hier. Le point avec Abdourahman Dia.
Les Afghans et le monde attendent impatiemment de connaître la composition de ce gouvernement dont les talibans ont maintes fois promis qu'il serait inclusif. Le chef adjoint de leur bureau politique au Qatar a renouvelé cette promesse mercredi dans une interview à la BBC. Mais il a aussi laissé entendre qu'il pourrait ne pas y avoir de femmes nommées ministres, mais uniquement à des échelons inférieurs. Une cinquantaine de femmes sont descendues jeudi dans les rues de Herat, capitale de l'Ouest afghan, pour revendiquer leur droit à travailler et réclamer la participation de femmes au nouvel exécutif. C'est notre droit d'avoir une éducation, du travail et la sécurité, ont chanté à l'unisson les manifestantes. Des pourparlers sont en cours pour former un gouvernement, mais ils ne parlent pas de la participation des femmes, a regretté Basira Tahiri, l'une des organisatrices de la manifestation. Les talibans se sont efforcés depuis plusieurs semaines de présenter un visage plus modéré et plus ouvert, assurant que le droit des femmes serait respecté. Mais pour l'heure, ces déclarations peinent à convaincre.
La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
En Côte d'Ivoire, Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, estime que le pays a besoin de 500 000 tonnes de poissons pour couvrir les besoins de consommation de 25 millions d'Ivoiriens. Monsieur Touré s'exprimait à l'ouverture d'un atelier sur l'aquaculture du tilapia en Côte d'Ivoire. Le pays produit seulement 5 000 tonnes de produits halieutiques par an. La Banque africaine de développement lance une nouvelle initiative pour intégrer le capital naturel dans le financement du développement en Afrique. Le capital naturel, qui comprend les sols ou les ressources de stockage de carbone, comme l'eau et la pêche, représente entre 30 et 50% de la richesse totale des pays d'Afrique. La BAD veut améliorer l'intégration du capital naturel dans le financement des infrastructures, les investissements et les politiques économiques en Afrique. Capital naturel toujours, mais cette fois en République démocratique du Congo. Pékin condamne toute exploitation illégale des ressources naturelles, a affirmé hier sur Twitter l'ambassadeur de Chine à Kinshasa, sur fond d'accusations d'activités opaques d'entreprises chinoises. Le gouvernement chinois se dit prêt à collaborer avec les autorités congolaises pour sanctionner les responsables.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'Afrobasket Kigali 2021 a désigné hier ses derniers qualifiés pour les demi-finales. Les Tunisiens ont dominé le Soudan du Sud 80 à 65 en quart de finale. En demi, la Tunisie fera face au Cap-Vert qui a battu l'Ouganda 79 à 71. En quart, la seconde demi-finale opposera le Sénégal à la Côte d'Ivoire qui a pulvérisé la Guinée en quart 98 à 50. Ces deux matchs sont prévus demain samedi 4 septembre. Football, suite et fin des matchs de la première journée des éliminatoires du Mondial à Qatar 2022, Zone Afrique ce vendredi, à suivre Mozambique-Côte d'Ivoire dans le groupe D, la Mauritanie reçoit la Zambie dans le groupe B, le Nigeria joue le Libéria dans le groupe C, dans le groupe G, le Ghana fait face à l'Éthiopie, la Tunisie reçoit la Guinée équatoriale dans le groupe B, le Cameroun fait face au Malawi dans le groupe D et l'Afrique du Sud se déplace au Zimbabwe dans le groupe G. Hier, l'Algérie a pulvérisé Djibouti 8 à 0. Le Maroc s'est imposé 2-0 devant le Soudan. 0 à 0 entre le Kenya et l'Ouganda. 1-1 entre la Namibie et le Congo. Le Bénin a battu Madagascar 1-0. Le Burkina Faso a eu raison du Niger 2-0. La République démocratique du Congo a fait match nul 1-1 face à la Tanzanie à Lubumbashi. Un match nul pas du goût du sélectionneur des Léopards. Hector Cooper.
Elle est pas tellement contente.
Le match nul, je ne suis pas content en réalité. Et moi, je vous dis aujourd'hui que nous avons joué avec 5 joueurs. J'ai eu seulement 2 jours de contact avec eux. J'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir entraîner ces joueurs-là. J'espère avant le match du Bénin et régler certaines choses avec les joueurs.
Hector Cooper, sélectionneur des Léopards de la RDC, au micro de Lucien Kaouzi Kocha, notre correspondant Swahili à Lubumbashi. Toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, dans la zone Europe cette fois-ci, la Belgique a battu l'Estonie 5 à 2. Pour la première de Hansi Flick sur le banc, l'Allemagne a laborieusement battu le Liechtenstein 2-0. Pour ses retrouvailles avec son public, l'Italie, sacrée championne d'Europe il y a un mois et demi, a déçu, ne réussissant pas à faire mieux qu'un match nul face à la Bulgarie 1-1. Un mois et demi après la finale de l'Euro perdue à domicile, l'Angleterre s'est tranquillement remise en route en écrasant la Hongrie 4-0 lors de la quatrième journée des qualifications pour ce Mondial 2022 zone Europe. Mauvaise nouvelle pour la France, son attaquant Kylian Mbappé, touché au mollet, a déclaré forfait pour la fin du rassemblement de septembre, a annoncé la Fédération française de football. Le joueur du Paris Saint-Germain a ressenti une douleur à un mollet pendant France-Bosnie mercredi. Il a été remis à la disposition de son club avant le départ des Bleus ce vendredi pour Kiev où ils affrontent l'Ukraine demain samedi avant de recevoir la Finlande mardi à Lyon.
Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, dans une lettre attribuée à Blaise Compaoré par des cadres de son parti, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien président parle de la situation sécuritaire dans son pays. Selon lui, il est temps de taire les querelles et les égaux pour préserver la patrie en très grand danger. M. Compaoré appelle à ce qu'il appelle une union sacrée pour vaincre le terrorisme. Yakuba Ouedraogo a joint Paul Miki Rwamba journaliste éditorialiste à LCA TV à Ouagadougou.
Je pense personnellement que l'ancien président Blaise Compaoré a bel et bien raison d'évoquer justement cette union sacrée. Cela pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que, rappelez-vous, au début justement des attaques terroristes au Burkina, autour de 2015-2016, il y avait malheureusement des accusations mutuelles sur le plan politique. Il y avait des clans politiques qui accusaient d'autres clans politiquement opposés d'être les instigateurs de ces attaques terroristes-là. On a passé malheureusement beaucoup de temps à s'accuser mutuellement et pour des raisons politiques sans avoir donc gain de cause. Deuxièmement, à l'étape où on est avec la lutte contre le terrorisme, on entend bien souvent les forces de défense et de sécurité qui regrettent le fait que les populations, quelquefois victimes des attaques terroristes, ne collaborent pas franchement avec les forces de défense et de sécurité parce qu'elles sont souvent témoins de la présence de groupes terroristes, de groupes djihadistes dans certains localités et elles ont tendance à les protéger et à ne pas les dénoncer. Donc s'il n'y a pas cette cohésion nationale, on ne peut pas donc vaincre ce terrorisme-là.
Faut-il s'attendre bientôt à ce que Blaise Compaoré rentre, malgré les déboires judiciaires qui l'attendent avec notamment l'affaire Thomas Sankara?
Oui, je pense qu'il faut s'attendre à ce que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso pour plusieurs raisons. La première, c'est que lui-même, il est demandeur d'un retour au bercail. Deuxièmement, il y a des mouvements qui appellent à son retour. Cela se passe sur le plan certainement politique. Il s'agit donc de mouvements de la société civile qui sont proches de lui, Blaise Compaoré, proches de son parti, le CDP. Et ces mouvements souhaiteraient d'ailleurs que l'actuel président du Faso Roch, Macky Sall Kabore, organise lui-même ce retour-là dans le cadre de la réconciliation nationale. Il est attendu ici au Burkina, autour donc d'un certain nombre de dossiers, notamment celui de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Il y a le dossier également de l'insurrection populaire. Donc, dans tous les cas, je crois que l'ancien président pourrait venir, malgré ses déboires judiciaires, comme vous l'avez dit, il pourrait passer devant la barre, être jugé comme un citoyen ordinaire, et puis peut-être après le procès, on verra quel type d'action mener dans le cadre de la réconciliation. C'est ce que pensent beaucoup de Burkinabés, en tout cas.
Paul Miki Rwamba, journaliste éditorialiste à LCA TV à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lors d'une visite au Cameroun, les autorités nigérianes ont demandé jeudi le retour au Nigeria de plus de 1000 anciens militants de Boko Haram. Des centaines d'anciens combattants se sont rendus au Cameroun depuis la mort d'Aboubakar Shekau au mois de mai. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Maroua dans le nord du Cameroun. Récit d'Eric Manirakiza.
Le gouverneur adjoint de l'État de Borno au Nigeria, Omar Ousmane Kadafou, s'est rendu jeudi dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il était à la tête d'une délégation de 14 législateurs, avocats, administrateurs et représentants d'un groupe de défense des droits humains pour négocier le retour volontaire d'anciens militants nigériens de Boko Haram. Il a rencontré ses déserteurs de Boko Haram au centre de désarmement de Méri, situé près de la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. Il s'est entretenu avec eux en Haoussa. Kadir Hassan, 34 ans, s'est échappé en août de la forêt de Sambisa, un bastion de Boko Haram à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.
Ah, Kaziri Dajimbana.
Des commandants de Boko Haram m'ont trompé en mars de l'année dernière, me disant que je devais quitter Kukawa, une ville de l'état de Borno au Nigeria, pour trouver un emploi. Cependant, lorsque je suis arrivé dans la forêt de Sambisa, on m'a donné une arme à feu au lieu du travail promis. Selon Hassan, depuis la mort du chef du groupe djihadiste Aboubakar Shekau, en mai, plusieurs centaines de combattants s'efforcent de s'échapper de la forêt de Sambisa.
Hassan s'est échappé avec 35 autres combattants. Ils se sont rendus à la force multinationale du bassin du lac Tchad qui combat le groupe djihadiste. Cette force est composée de troupes du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, les a amenés au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR à Méri. Midjiawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, affirmait que son pays est submergé d'anciens militants depuis la mort de Shekau.
Nous avons plus de 1000 Nigérians ici, tous originaires de l'état de Borno. À la fin de la saison des pluies, ils rentreront chez eux. Nous félicitons le gouverneur Babagana Umara de l'état de Borno au Nigeria. Il a envoyé une commission ici pour accompagner ces Nigérians dans leur retour chez eux.
Monsieur Bakari a indiqué que sa délégation va enregistrer les anciens militants qui veulent retourner volontairement au Nigeria. Il a par contre précisé que les fortes pluies ont rendu difficile le retour des ex-combattants cette semaine. Le Cameroun a déclaré qu'il négociait le renvoi des ex-militants au Nigeria car les centres de DDR devenaient surpeuplés. Selon les responsables camerounais, ces centres accueillaient les anciens militants originaires du Tchad, du Cameroun et du Nigeria.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Les autorités chinoises disent condamner l'exploitation illégale des ressources minières en République démocratique du Congo, dénoncée par des ONG et autres acteurs. L'ambassadeur de la Chine à Kinshasa a fait savoir sur Twitter, après discussion avec le gouvernement congolais, que son pays attend des enquêtes qui tiennent aux faits et qui ne sont pas basées sur la diffamation, la xénophobie ou les incitations à la haine. Eddie Isango a joint à Kinshasa le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui demande l'expulsion des Chinois impliqués. Maître Georges Kapiamba.
Nous condamnons cette activité parce qu'elle est illégale, elle est interdite par le code minier. Et nous demandons au gouvernement d'agir rapidement. Nous savons que l'actuel ministre des Mines essaye de faire quelque chose, mais nous attendons des actions au moins costaudes qui peuvent permettre d'identifier rapidement tous ces Chinois, les répertorier, ainsi que leurs complices qui se recrutent principalement dans le secteur public, les déférer devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient jugés et condamnés et que les Chinois reconnus coupables puissent être expulsés après avoir été contraints à payer toutes les taxes imposées à l'État, mais aussi après avoir payé ce qu'il faut pour la réhabilitation des sites endommagés.
Donc, vous estimez que les compagnies qui exploitent là, particulièrement les Chinoises, ne suivent pas leur cahier de charges, parce qu'on parle, par exemple, de l'exploitation de Nobium et autres.
Non, d'abord, ce sont des sociétés qui, pour la plupart, ne sont pas enregistrées, ou si elles sont enregistrées, mais elles sont enregistrées sous des prête-noms. Elles ne payent même pas d'impôts. Les personnes que ces entreprises font venir de la Chine accèdent sur le territoire national de manière clandestine. C'est comme ça qu'elles se livrent à exploiter tous ces minerais stratégiques clandestinement et ramènent ça dans leur pays sans que l'État congolais ne soit informé ni de la quantité exportée ou que l'État ne soit pas en mesure de percevoir les impôts et taxes qui lui reviennent.
Vous parlez du ministre de Mines, mais je viens de voir qu'elle a signé avec son collègue de l'Intérieur une décision pour s'opposer à la décision du gouverneur du Sud Kivu suspendant les activités minières de certaines entreprises chinoises qui se cachaient derrière des coopératives congolaises.
Vous savez, nous défendons la légalité sur ce point-là, même si on peut considérer que la décision du gouverneur permet de stopper au moins l'hémorragie d'exploitation, mais nous disons seulement que le gouverneur n'a pas compétence pour agir dans cette matière. Nous le disons pourquoi ? Parce que nous avons constaté que la plupart d'activités illégales sont favorisées, autorisées par les dix gouverneurs, alors que le code reconnaît ces attributions au seul ministre des Mines. Il faut que le gouverneur retire son arrêté, retire son acte, le rapporte et laisse la ministre des Mines agir, d'autant plus qu'elle a déjà dépêché sur le terrain, notamment à Kamituga, une équipe importante des inspecteurs des mines.
L'ambassadeur chinois met en garde contre la diffamation, contre la haine et l'incitation à la xénophobie. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part il a raison, que c'est juste pour attirer un peu la haine contre la Chine ou les Chinois?
Il a raison sur quoi? Lorsque les Chinois sont sur le territoire congolais, ils se livrent aux activités illicites contre les lois de la République, qu'on croise les bras, qu'on dise que non, on s'éteint, parce que si on les dénonce, si on demande à ce qu'on puisse les sanctionner, on va dire que nous comportons un xénophobe contre les Chinois.
Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
À votre avis, votre émission interactive ce vendredi, les matières premières et le développement de l'Afrique. Le groupe italien Eni annonce la découverte d'un important gisement de pétrole au large de la Côte d'Ivoire qui pourrait contenir jusqu'à 2 milliards de barils. D'importantes découvertes ont été faites ces dernières années dans des pays comme le Sénégal et la Mauritanie. L'Afrique représente 30% des réserves mondiales en pétrole, en gaz et en minéraux, mais reste le continent le plus pauvre. Comment le continent peut-il tirer un meilleur profit de ses ressources naturelles? Réagissez sur notre page Facebook et rendez-vous à 18h05 temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le géant chinois des télécommunications Huawei veut former près de 3 millions de jeunes Africains dans le secteur du numérique, y compris les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle. Des étudiants nigérians qui ont participé à un concours TIC parrainé par la compagnie affirment que les avantages sont considérables. Certains experts estiment toutefois que l'influence technologique croissante de la Chine en Afrique pourrait avoir des impacts négatifs. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Huawei a lancé le concours GlobalTIC en Afrique il y a 6 ans dans le but de former des professionnels hautement qualifiés. 2000 étudiants africains ont déjà participé à la compétition. En 2019, Mohamed Mayacha et 5 autres étudiants de l'université Amadou Bello dans l'état de Kaduna sont arrivés 3e, devenant la meilleure équipe d'Afrique subsaharienne.
Nous avons été exposés à des appareils et des technologies que nous n'avions jamais connues auparavant. En tant qu'étudiants universitaires ordinaires, nous n'aurions pas vécu ce que nous avons vécu lors de la compétition. Donc cela m'a rendu beaucoup plus enclin au TIC, pour ainsi dire.
Le concours évalue les compétences des étudiants en matière de technologie de réseau et de cloud. Le succès de l'équipe nigériane en 2019 a inspiré d'autres étudiants comme Hamza Atabor.
J'ai été inspiré quand ils ont parlé de leurs histoires, de la façon dont ils ont gagné le concours et aussi quand ils ont reçu leur prix. J'ai alors pensé que c'est quelque chose qui en valait la peine.
Make sacrifice for.
Alors que plusieurs étudiants comme Mohamed et Hamza atteignent l'objectif fixé par l'entreprise chinoise, certains observateurs l'analysent comme une représentation de la présence croissante de la Chine dans le paysage technologique de l'Afrique. Il est rapporté que Huawei représente plus de 70% du réseau de télécommunications du continent. L'expert en TIC Samuel Adekola affirme que la Chine pourrait utiliser son avantage concurrentiel à des fins politiques.
C'est vraiment dangereux, difficile de savoir jusqu'où il pourrait aller, mais avec des données, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'informations sur un groupe de personnes et sur le pays.
Même si de nombreux étudiants acquièrent des compétences à travers ce programme chinois, certains experts estiment que l'Afrique pourrait devoir payer le prix d'une trop grande dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel-Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.